Après Columbia, eh bien, c'est l'université de Harvard qui est maintenant dans le viseur de la Maison Blanche. L'administration Trump, en effet, annonce le gel d'une partie des subventions de la prestigieuse université américaine. On en discute avec André Caspi, historien et spécialiste des États-Unis. Il est au micro de Lucie Gilson.
André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Radio Judaïka. Alors, vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Alors aujourd'hui, André Caspi, nous aimerions évoquer avec vous une nouvelle décision du président américain Donald Trump. Il a décidé de geler une partie des subventions d'Harvard pour punir l'université de ne pas faire assez pour lutter contre l'antisémitisme sur le campus. Alors tout d'abord, on parle de 2,2 milliards de subventions. Est-ce que vous pensez que cela va avoir les effets escomptés, c'est-à-dire que l'université va être poussée à mettre en place justement des garde-fous pour lutter contre l'antisémitisme sur les campus?
Écoutez, ça n'est pas la première mesure que prend Donald Trump à l'égard des universités. Il a déjà pris une mesure équivalente contre Columbia, précisément pour la même raison. C'est-à-dire au fond parce que Columbia, en 2024, n'a peut-être pas été assez réactive à l'encontre des manifestations anti-israéliennes qui ont illustré l'histoire de cette université. Parce qu'il y a eu sur les campus, notamment campus de Columbia, le campus de Harvard et d'autres campus d'ailleurs, des manifestations en faveur des Palestiniens et à l'encontre des Israéliens, mais non seulement à l'encontre des Israéliens, mais aussi à l'encontre des Juifs. Donc, si vous voulez, il y a un mouvement antisémite et anti-israélien qui s'est manifesté sur les campus américains, et par conséquent, Donald Trump et son gouvernement donnent un avertissement particulièrement fort à l'encontre de ces universités pour leur montrer que elles n'ont pas combattu suffisamment cette hostilité à l'encontre d'Israël ou à l'encontre des Juifs et que par conséquent il y a une réparation nécessaire d'un mal qui a été commis au cours de l'année 2024. Mais j'ajoute ceci, c'est que au fond ce que reproche le gouvernement américain à l'encontre de ces universités qui sont des institutions privées. Ce ne sont pas des institutions publiques. Ce ne sont pas des universités publiques, ce sont des universités privées qui ont un très long passé parce que, par exemple, Harvard a été créé en 1636 et puis Columbia a été créé un peu après, mais toujours au XVIIIe siècle. Donc ce sont de très vieilles universités, de très prestigieuses universités. Mais ce que veut montrer également le gouvernement de Donald Trump, c'est que non seulement elles ont été relativement tolérantes à l'encontre de ces mouvements pro-palestiniens, mais elles pratiquent également ce que le gouvernement appelle la politique de discrimination, d'ethnicité, d'inclusion, c'est-à-dire DEI, contre laquelle lutte le gouvernement de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, à l'encontre de ces universités, le reproche d'avoir soutenu le mouvement palestinien et le reproche d'être trop marqué par ce que l'on appelle la culture woke. Donc c'est l'ambiguïté, si on peut dire, de la décision que prend Donald Trump ou que prennent les représentants de Donald Trump. Et évidemment, ça peut avoir un impact particulier parce que supprimer la subvention publique, c'est évidemment un coup très fort qui est porté au budget de ces universités. Et en même temps, c'est un avertissement qui est donné à toutes les autres universités américaines qui ont suivi plus ou moins l'exemple de Columbia ou l'exemple de Harvard.
Mais justement, ça soulève la question des motivations justement du président américain Donald Trump, parce que est-ce qu'il n'est pas en train là d'instrumentaliser sa promesse de campagne de lutter contre l'antisémitisme sur les campus en exécutant, disons, un agenda politique un peu plus large et s'attaquant justement à des programmes de diversité, d'égalité et d'inclusion qui sont là propres à l'administration de leur, à chaque administration d'université.
Oui, de toute évidence, on ne peut pas dire qu'il n'y ait qu'une seule motivation de la part de Washington. Il y a en effet ces deux motivations que vous mentionnez. C'est-à-dire, alors, est-ce que l'une l'emporte sur l'autre? Je ne peux pas répondre à cette question, mais il est évident que pour Donald Trump, c'est aussi une manière, en somme, de lutter contre ces mouvements qu'il considère être caractéristiques de la gauche américaine, tout en soutenant une cause qui est beaucoup plus défendable et qui est la lutte contre l'antisémitisme.
Alors aujourd'hui, ce gel de subvention, c'est quand même un coup dur pour l'université d'Harvard qui a répondu qu'elle refusait de se plier aux exigences fédérales. Est-ce qu'elle pourra tenir un bras de fer avec l'administration Trump?
Alors, elle peut tenir un bras de fer parce que au fond, ces universités ne sont pas financées que par de l'argent public. Elles bénéficient de tout un entourage financier qui leur permet de survivre. Ce sont des universités privées, hein, elles ne sont pas publiques. Ça n'est pas la Sorbonne, ça n'est pas une université française. Ce sont des universités qui ont été créées de manière privative et qui sont soutenues par de l'argent qui provient non seulement des droits d'entrée que les étudiants doivent payer, mais aussi de toutes les subventions par ceux qui sont d'anciens élèves, d'anciens étudiants, et qui contribuent en somme à donner à ces universités le substrat financier sans lequel elles ne pourraient pas vivre. Donc il est évident qu'elles pourraient, à la rigueur, résister. Mais d'un autre côté, on a bien vu par exemple que Columbia a accepté l'ultimatum de Donald Trump. Donc est-ce que Harvard sera en mesure de faire autre chose que Columbia? Ça, je ne peux pas vous le dire. Mais il est évident que Harvard pourrait éventuellement tenter de montrer que l'université n'est pas prête à céder aux pressions du gouvernement fédéral, mais à condition de trouver les moyens de résister à ces pressions. Voilà. Donc, si vous voulez, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que l'exemple de Columbia montre que le gouvernement fédéral a obtenu satisfaction, mais je ne peux pas dire avec certitude qu'il obtiendra aussi satisfaction de la part de Harvard.
Alors, ça nous amène à une dernière question, André Caspi. Est-ce que cela va avoir peut-être pour effet subsidiaire d'accélérer la fuite des scientifiques américains vers d'autres universités dans le monde, comme on a pu l'observer depuis la prise de mandat de Donald Trump?
Là-dessus, je suis très réservé. Je ne suis pas certain, si vous voulez, que les étudiants américains se précipitent immédiatement vers les universités étrangères, et je ne suis pas certain non plus que les enseignants américains quittent le territoire des États-Unis pour venir enseigner à la Sorbonne ou dans les universités françaises, parce que n'importe comment, vous savez, nos universités à nous, elles sont pauvres par rapport aux universités américaines, elles ne disposent pas des moyens dont disposent les universités américaines. Par conséquent, je ne crois pas beaucoup à cette fuite des cerveaux. Mais en revanche, cela fait partie, si vous voulez, du débat politique. C'est-à-dire que est-ce que c'est une manière pour Donald Trump de marquer son territoire, d'insister sur les changements profonds qui affectent la société américaine depuis que Donald Trump est devenu le président des États-Unis? Est-ce qu'il y a en somme désormais un nouveau territoire de disputes, de bagarres, de conflits entre la droite et la gauche aux États-Unis, avec pour l'instant une primauté de la droite sur la gauche, et la droite profite en somme des instruments dont elle dispose pour essayer d'imposer sa volonté à ses adversaires politiques.
Est-ce qu'il est possible que Donald Trump change d'avis?
Non. Ça, je vous réponds tout de suite, non. Donald Trump n'est pas l'homme à changer d'avis. Certainement pas. C'est-à-dire qu'au fond, il tient là un élément important dans sa politique, et je ne crois pas qu'il soit du genre à changer d'avis. Vous savez, Donald Trump, lorsqu'il tient une idée, il essaye de l'appliquer jusqu'au bout. On le voit bien, par exemple, dans tout ce qui porte sur la politique tarifaire à l'égard de la Chine ou à l'égard des autres nations du monde. Mais là, en ce qui concerne les universités américaines, je pense que il peut bénéficier d'un soutien assez large de l'opinion des États-Unis, parce qu'au fond, tous les Américains ne passent pas par Harvard, tous les Américains ne passent pas par Columbia. Et puis, l'avertissement qu'il lance et à Columbia et à Harvard vaut aussi pour toutes les autres universités américaines, parce que toutes les autres universités américaines ont été marquées par les mêmes manifestations pro-palestiniennes de l'année 2024.
Eh bien, André Caspi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup. À très bientôt.
Au revoir.